La Vierge au Rocher, 56. Léonard a réalisé de très nombreux portraits de femmes, mais un seul portrait d'homme, celui d'un musicien, a été retrouvé à ce jour. On lui prête souvent la phrase suivante, le personnage le plus digne d'éloge est celui qui, par son mouvement, traduit le mieux les passions de l'âme, qui explique bien sa pensée de peintre. Cependant, il a aussi dessiné des croquis caricaturaux de ses contemporains dans la mode du grotesque. Léonard est surtout célèbre pour ses dessins, et ses peintures dans lesquelles il introduit ses notions de mathématiques, et utilise la perspective. Si l'utilisation du nombre d'or dans sa peinture, souvent admise, n'est pas avérée, 57, son travail sur les proportions, à l'image de l'homme de Vitruve, a été important. Vinci estimait que la peinture était une science, 26. Premiers travaux modifiés. Les premiers travaux de Léonard de Vinci, commencent avec le baptême du Christ peint avec Andrea del Verrocchio, à qui il est attribué, et ses autres élèves. Deux autres peintures semblent dater de cette période à l'atelier, qui sont tous les deux des annonciations. L'un est petit, large de 59 cm pour seulement 14 de haut. Il s'agit d'une prédelle se plaçant à la base d'une composition plus large, et, dans ce cas, pour un tableau de Lorenzo di Crodi duquel il fut séparé. L'autre est un travail beaucoup plus important, de 217 cm de large, 11. Dans ces deux annonciations, Léonard a dépeint la Vierge Marie assise, ou agenouillée à la droite de l'image, et un ange de profil s'approchant d'elle par la gauche. Un gros travail est fait sur les mouvements des vêtements et les ailes de l'ange. Bien que précédemment attribué à Domenico Ghirlandaio, l'œuvre est désormais presque universellement attribuée à De Vinci, 58. Dans le tableau le plus petit, Marie détourne ses yeux et plie ses mains dans un geste qui symbolise la soumission à la volonté de Dieu. Dans le tableau le plus grand cependant, Marie ne semble pas aussi docile. La jeune femme, interrompue dans sa lecture par ce messager inattendu qu'est l'ange, place son doigt dans livre 5 pour repérer là où elle en est, et lève la main dans un geste de salutation ou de surprise, 43. Son calme semble montrer qu'elle accepte son rôle de mère de Dieu, non pas avec résignation mais avec confiance. Dans ce tableau, le jeune Léonard présente le visage humaniste de la Vierge Marie, reconnaissant le rôle de l'humanité dans l'incarnation de Dieu, 59. Ce dernier tableau a visiblement été travaillé par plusieurs personnes, puisque certaines discontinuités de style sont perceptibles, comme une erreur de perspective sur le bras droit de Marie, le pré fleuri comme une broderie, ou bien les ailes de rapace de l'ange, 25. Le style du lutrin du tableau pourrait être un clin d'œil au style du tombeau de Pierre de Médicis réalisé par Verrocchio en 1472, 25. Peinture des années 1480 modifiée. Dans les années 1480, Vinci reçoit de très importantes commandes, et commence à travailler à une autre œuvre, qui est également d'une grande importance en termes de composition. Malheureusement, deux des trois œuvres n'ont jamais été terminées et la troisième a été si longue à créer qu'elle fut soumise à de longues négociations sur son achèvement et son paiement. L'un de ses tableaux est Saint Jérôme. Liana Bortelon, dans son livre The Life and Times of Leonardo, 1967, associe ce tableau à une période difficile de la vie de Léonard. Les signes de la mélancolie peuvent se lire dans son journal, « Je pensais que j'apprenais à vivre, j'apprenais seulement à mourir 16. » La composition du tableau est très inhabituelle, même s'il est vrai que certaines parties de celui-ci furent découpées, 60. Le tableau dépeint la pénitence de Jérôme de Stridon dans le désert. Pénitent, Jérôme occupe le milieu de l'image, le corps légèrement en diagonale. Sa posture agenouillée prend une forme trapézoïdale, avec un bras tendu vers le bord extérieur de la peinture, et son regard allant dans la direction opposée. Jacques Wasserman souligne le lien entre cette peinture et les études anatomiques de Léonard, 35. Au premier plan de l'ensemble s'étend son symbole, un grand lion, dont le corps et la queue effectuent une double courbe à travers la base de l'image. L'autre caractéristique intéressante est l'aspect superficiel du paysage de pierre rocailleuse où se trouve le personnage. L'affichage audacieux et novateur de la composition, avec les éléments du paysage et le drame personnel, apparaît également dans le grand chef-d'œuvre inachevé qu'est l'Adoration des Mages, une commande des moines de San Donato a Scopetto. C'est un tableau à la composition très complexe, et Léonard a fait de nombreux dessins et études préparatoires, y compris une très détaillée pour la perspective linéaire d'une ruine d'architecture classique, qui sert de toile de fond à la scène. Mais, en 1482, Léonard part à Milan, à la demande de Laurent de Médicis, afin de gagner les bonnes grâces de Ludovic Sforza. Il abandonne donc son tableau, 58, 11. Le troisième travail important de cette période, est la Vierge au Rocher qui a été commandée à Milan pour la confrérie de l'Immaculée Conception. La peinture, faite avec l'assistance des frères, devait combler un grand retable, déjà construit, 35. Léonard a choisi de peindre un passage de l'enfance du Christ tiré des évangiles apocryphes, lorsque le petit Jean le Baptiste, sous la protection d'un ange, a rencontré la Sainte Famille sur la route de l'Égypte. Dans cette scène, telle qu'elle a été peinte par Léonard de Vinci, Jean reconnaît et vénère Jésus comme le Christ. Le tableau montre des personnages gracieux, s'agenouillant en adoration devant le Christ dans un environnement sauvage et un paysage rocheux. 61. Le tableau est quasiment aussi complexe que la peinture commandée par les moines de San Donato, même s'il a seulement 4 personnages, et non 50, et s'il dépeint un paysage, plutôt qu'un fond architectural. Le tableau a été achevé mais, en fait, 2 versions de la peinture ont été faites, celle, le qui est resté à la chapelle de la confrérie, et l'autre qu'a emporté Léonard en France. Mais les frères n'ont pas eu leur peinture avant le siècle suivant, 11-20. Une seconde version de ce tableau, avec l'ajout des auréoles et du bâton de Jean, le Baptiste, sera faite quelques années plus tard. Peinture des années 1490 modifiée. La plus célèbre peinture de Léonard pour la période des années 1490 est la scène. Elle est peinte directement sur un mur du couvent Santa Maria del Grazia à Milan. La peinture représente le dernier repas partagé par Jésus et ses disciples avant sa capture et sa mort. Il montre précisément le moment où Jésus déclare « L'un de vous va me trahir ». Léonard dépeint la consternation que cette déclaration a causée à l'ensemble des 12 disciples de Jésus. 20. Le romancier Mathieu Bandello a observé Léonard au travail et écrit que, certains jours, il peint de le beau crépuscule sans même s'arrêter pour manger, et puis ne peint plus les 3 ou 4 jours suivants. 35. Selon Vasari, cela provoque l'incompréhension du père supérieur, le prieur, qui chasse le peintre, jusqu'à ce que Léonard demande au duc de Milan Ludovic Sforza d'intervenir. Vasari décrit également comment Vinci doute de sa capacité à peindre proprement les visages de Jésus et de Judas, disant au duc qu'il a peut-être utilisé le moine pour modèle. 19. Lorsque le tableau est terminé, il est salué comme un chef-d'œuvre de conception et de caractérisation. 19. Obtenant même plus tard l'admiration de Pierre-Paul Rubens et de Rembrandt. 26. L'œuvre a été restaurée sans cesse, la peinture se détachant du support en plâtre. 14. La peinture s'est détériorée rapidement, de telle sorte qu'avant même le 100e anniversaire de sa création, elle a été décrite par un témoin comme totalement dévastée. 11. Léonard, au lieu d'utiliser la technique éprouvée de la fresque, a utilisé la technique de la tempra, un procédé de peinture utilisant le jaune œuf comme médium pour lier les pigments, alors que le support est principalement gesso, un type de craie fait de carbonate de calcium minéral, ce qui a produit une surface sujette à la moisissure et à l'écaillage. 11. Malgré ses déboires, le tableau est resté l'une des œuvres d'art les plus reproduites. Peinture des années 1500 modifiées. Parmi les œuvres créées par Léonard dans les années 1500 se trouve un petit portrait connu sous le nom de la Joconde, 1503-1506, ou de, notamment pour les anglophones, Mona Lisa. Le tableau est connu, en particulier, pour l'insaisissable sourire sur le visage de la femme. La qualité de la peinture est peut-être liée au fait que l'artiste a subtilement ombré les coins de la bouche et les yeux, afin que la nature exacte du sourire ne puisse être déterminée. La qualité des ombres pour lesquelles le travail est réputé a été appelée sfumato, la fumée de Léonard. Giorgio Vasari a écrit que le sourire est si agréable qu'il semble divin plutôt qu'humain. Ceux qui l'ont vu ont été très surpris de constater qu'il semble aussi vivant que l'original. 19. Néanmoins, pendant longtemps, les experts ont généralement admis que Vasari a pu n'avoir jamais connu la peinture autrement que par sa renommée, car il l'a décrite comme ayant des sourcils. Une analyse spectroscopique à haute résolution a permis de confirmer l'hypothèse de Daniel Arras qui, dans son livre Leonardo da Vinci, 1997, discutait de la possibilité que Léonard ait pu avoir peint le visage avec des sourcils, mais qu'ils ont ensuite été enlevés, notamment parce qu'ils n'étaient pas en vogue au milieu du XVIe siècle. Effectivement, la Joconde aurait eu des sourcils et des cils qui ont par la suite été enlevés. 62. Les autres caractéristiques de ce travail sont la sévérité vestimentaire, laissant les yeux et les mains non concurrencés par d'autres détails, le paysage de fond spectaculaire, le travail des couleurs et la nature de la technique de peinture très douce employant des huiles, mais posée un peu comme la tempra, et mélangée à la surface de sorte que les coups de pinceau semblent indissociables. Vasari a exprimé l'avis que la façon de peindre ferait même le plus confiant des maîtres de la peinture désespérer et perdre courage. 19. L'état de conservation remarquable, et le fait qu'il n'y ait aucun signe visible de réparation ou de surcouche repeinte, sont extrêmement rares pour une peinture de cette période. 11. Dans la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, la composition reprend de nouveau le thème de personnages dans un paysage que Jacques Wasserman, dans son livre Leonardo da Vinci, 1975, qualifie de saisissant par sa beauté. 35, et renvoie à la peinture inachevée de Saint Jérôme avec le personnage faisant un angle oblique avec l'un de ses bras. Ce qui rend la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne si rare, est la présence de deux ensembles dans une perspective différente mais se superposant. Marie est assise sur les genoux de sa mère, Sainte Anne. Elle se penche en avant pour prendre dans ses bras l'enfant Jésus qui joue avec un agneau, signe de l'imminence de son propre sacrifice. 20. Ce tableau, qui a été copié à plusieurs reprises, a influencé Michel-Ange, Raphaël et Andrea del Certo. 11. Et, à travers eux, Pontormo et Le Corrège. Le style de la composition a été adopté en particulier par les peintres vénitiens Le Tintoret et Polveronese. Dessin et croquis modifiés. Vinci n'a pas été un peintre prolifique, mais il a été comme dessinateur, remplissant ses journaux de petits croquis et de dessins détaillés afin de garder une trace de tout ce qui avait attiré son attention. En plus de ses notes, il existe de nombreuses études pour ses peintures, dont certaines peuvent être considérées comme préparatoires à des travaux, tels que l'Adoration des Mages, la Vierge au Rocher et la Seine, 63. Son premier dessin daté est un paysage, paysage de Santa Maria della Neve, 1473, qui montre la rivière, les montagnes, le château Montelupo et les exploitations agricoles au-delà de celui-ci dans le plus grand détail, 1663. Parmi ses célèbres dessins, il y a l'homme de Vitruve, une étude des proportions du corps humain, la tête de l'ange, la Vierge au Rocher et la Vierge, l'enfant Jésus avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste, qui est un grand carton, 160 x 100 cm, encre blanche et noire sur un papier de couleur de Sainte Anne, 63. Ce thème de Sainte Anne sera, avec la Sainte Famille, la dominance de l'œuvre de Léonard de 1500 à 1517, 30. Ce dessin emploie la technique subtile du sfumato, à la manière de la Joconde. Léonard ne semble jamais avoir fait une peinture à partir de ce dessin, mais un tableau assez proche en est la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne, 11. Les autres dessins d'intérêt comprennent de nombreuses études généralement dénommées caricatures parce que, bien qu'exagérées, elles semblent être basées sur l'observation de modèles vivants. Giorgio Vasari rapporte que, si Léonard voyait une personne qui avait un visage intéressant, il la suivait toute la journée pour l'observer, 19. Il existe de nombreuses études de beaux jeunes hommes, souvent associés à Salé, avec le visage rare, très admiré et caractéristique, que l'on appelle le profil grec 64. Ces visages sont souvent en contraste avec ceux d'un guerrier, 63. Salé est souvent dépeint dans des costumes et des déguisements. Léonard est connu pour avoir conçu des décors pour des processions traditionnelles. D'autres dessins, souvent minutieux, montrent des études de draperie. Enfin, un autre dessin souvent reproduit, est un croquis macabre qui a été fait par Léonard à Florence en 1479, et qui montre le corps de Bernardo Baroncelli, pendu dans le cadre de l'assassinat de Julien, frère de Laurent des Médici, dans la Conjuration des Pazzi 63. Léonard comme observateur, scientifique et inventeur modifié. Journaux et notes modifiées. L'humanisme de la Renaissance, ne lit pas les sciences et les arts. Cependant, les études de Vinci en sciences et en ingénierie sont aussi impressionnantes et novatrices que son travail artistique, enregistré dans des carnets de notes comprenant quelque 13 000 pages d'écriture et de dessins, qui associeraient philosophie naturelle, le base de la science moderne. Ces notes ont été réalisées et mises à jour quotidiennement, pendant toute la vie et les voyages de Léonard. Continuellement, il s'efforce de faire des observations du monde qui l'entourait, vain, conscient et fier d'être, comme il se définissait, un homme sans lettres, autodidacte et lucide sur les phénomènes naturels souvent bien éloignés de ce qui était appris à l'école, 26. Ses journaux sont pour la plupart rédigés dans une écriture spéculaire, plus communément appelée écriture en miroir. La raison peut avoir été davantage un besoin de pratique, pour être plus rapide, que pour des raisons de chiffrement, comme cela l'est souvent suggéré. Comme Léonard écrivait avec sa main gauche, il devait être plus facile pour lui d'écrire de droite à gauche. Ses notes et dessins, dont les plus anciens sont datés de 1475-25, montrent une grande variété d'intérêts et de préoccupations, mais aussi certaines listes quelconques d'épicerie ou de ses débiteurs. Il y a des compositions pour des peintures, des études de détail et de tapisserie, des études de visage et d'émotion, des animaux, des bébés, des dissections, des études botaniques et géologiques, des machines de guerre, des machines volantes et des travaux architecturaux, 20. Ses carnets de notes, initialement des feuilles volantes de différentes tailles et de différents types, données par ses amis après sa mort, ont trouvé leur place dans les collections importantes, comme celle exposée au château de Windsor, au musée du Louvre, à la Bibliothèque nationale d'Espagne, à la Bibliothèque ambrosienne de Milan, au Victoria and Albert Museum, et à la British Library de Londres. La British Library a mis une sélection à partir de ses notes, BLR and LMS 263, sur l'internet dans les pages de son site abordant ce chapitre, 65. Le Codex Lysastes est le seul grand travail scientifique de Vinci qui soit entre les mains d'un propriétaire privé, Bill Gates. Les journaux de Léonard semblent avoir été destinés à la publication, car beaucoup de feuilles ont une forme et un ordre qui en faciliterait l'édition. Dans de nombreux cas, un seul thème, par exemple, le cœur ou le fœtus humain, est traité en détail à la fois dans les mots et les images, sur une seule feuille, 66. Ce mode d'organisation minimise également la perte de données dans le cas où les pages seraient mélangées ou détruites. La raison pour laquelle ces journaux n'ont pas été publiés alors que Léonard était encore vieux est inconnue, 20, mais certains estiment que la société n'était pas prête pour cela, notamment l'Église vis-à-vis de ses travaux anatomiques. Études scientifiques modifiées. L'approche de la science par Léonard est très liée à l'observation, si la science est le capitaine, la pratique est le soldat 26. Sa science, ses recherches scientifiques ne portent exclusivement que sur les parties qu'il a pratiquées en technicien. 15. Léonard de Vinci a essayé de comprendre un phénomène en le décrivant et en l'illustrant dans les plus grands détails, en n'insistant pas trop sur les explications théoriques. Ses études sur le vol ou le mouvement de l'eau sont sans doute ce qu'il y a de plus remarquable à ce sujet. Comme il manquait d'instructions initiales en latin et en mathématiques, les chercheurs contemporains ont largement ignoré le savant Léonard, bien qu'il ait appris par lui-même le latin. Dans les années 1490, il a étudié les mathématiques à la suite de Luca Pacioli, et a fait une série de dessins de solides réguliers dans une forme squelettique, afin de les faire graver pour son livre Divina Proportione, 1509-20. Il est alors particulièrement fasciné par l'idée de l'absolu et de l'universel, 26. Cependant, sa culture mathématique est celle d'un praticien, elle a les objectifs limités des abacistes de son temps, il pénètre avec peine la géométrie des Grecs, sa perspective est celle de tous les théoriciens de son temps. Néanmoins, Léonard a conçu un instrument à système articulé destiné à construire une solution mécanique du problème d'Alhazen, problème essentiellement technique, et qui témoigne d'une connaissance approfondie des propriétés des coniques. 15. De même, la mécanique de Léonard est celle de ses contemporains, avec ses faiblesses, ses incertitudes, ses erreurs et il ne paraît pas qu'il ait apporté beaucoup de découvertes en la matière. Sa physique est assez confuse et vague. Il ne fut certainement jamais artilleur, et n'a pas de théorie relative à la balistique. Pourtant, comme l'attestent certains de ses schémas, Léonard de Vinci eut peut-être l'intuition, comme on pouvait l'observer sur un jet d'eau, qu'il n'existait pas de partie rectiligne dans la trajectoire d'un projectile d'artillerie contrairement à ce qui était couramment admis à l'époque. Mais il s'arrêta très vite sur une voie que Tartaglia puis Benedetti allaient suivre et qu'il mena à Galilée 15. Si Alberti ou Francesco di Giorgio Martini se préoccupèrent de la solidité des poutres, jamais ils n'avaient cherché de formulation mathématique. Léonard de Vinci s'intéresse au problème de la flexion, sans doute à l'aide d'expérience, et parvient à définir des lois, encore imparfaites, 67, de la ligne élastique pour des poutres de différentes sections, libres ou encastrées dans le problème de Galilée, problème du balcon. Ce faisant, il élimine le module d'élasticité, et le moment auquel avait pourtant fait allusion Jordan une honorarium, 15. Léonard de Vinci étudia aussi beaucoup la lumière et l'optique, 34, en hydrologie, la seule véritable loi qu'il ait formulée, est celle du débit des cours d'eau. Il semble que, à partir du contenu de ses carnets, il ait envisagé de publier une série de traités sur une grande variété de sujets. À plusieurs reprises il mentionne un projet de traité de l'eau, mais qui paraît avoir été si considérable dans sa pensée qu'il semblait irréalisable, 15. Les aspects de son travail sur les études de l'anatomie, de la lumière et des paysages, ont été rassemblés pour la publication par son élève Francesco Malzi, et finalement publiés en 1651 en Italie, longtemps après sa mort, sous le nom de traité de la peinture par Léonard de Vinci, 20, 63. Selon Daniel Arras, le traité a été publié en France bien plus tard, mais eut 62 éditions en 50 ans, ce qui fait que Léonard est souvent considéré comme le précurseur de la pensée universitaire française sur l'art 20. Médecine et anatomie modifiée. La formation initiale de Léonard à l'anatomie du corps humain a commencé lors de son apprentissage avec Andrea del Verrocchio, son maître insistant sur le fait que tous ses élèves apprennent l'anatomie. Comme artiste, il est rapidement devenu maître de l'anatomie topographique, en s'inspirant de nombreuses études des muscles, des tendons et d'autres caractéristiques anatomiques visibles. Il pose les bases de l'anatomie scientifique, disséquant notamment des cadavres de criminels dans la plus stricte discrétion, pour éviter l'inquisition. Les conditions de travail sont particulièrement pénibles à cause des problèmes d'hygiène et de conservation des corps. Comme artiste connu, il a reçu l'autorisation de disséquer des cadavres humains à l'hôpital de Santa Maria Nuova à Florence et, plus tard, dans les hôpitaux de Milan et de Rome. De 1510 à 1511, il a collaboré dans ses recherches avec le médecin Marc Antonio della Torre. Ensemble, ils ont compilé un ensemble de travaux théoriques sur l'anatomie avec plus de 200 dessins de Léonard. Il a été publié sous le nom peu évident de traité de la peinture en 1680. Léonard a dessiné de nombreux squelettes humains, des os, ainsi que les muscles et les tendons, le cœur et le système vasculaire, l'action de l'œil, les organes sexuels et d'autres organes internes. Ces observations contiennent parfois des inexactitudes dues aux connaissances de l'époque. 14. Il n'a par exemple jamais entrevu la circulation du sang. 15. Il a fait l'un des premiers dessins scientifiques d'un fœtus dans l'utérus. 63. Et la première constatation scientifique de la rigidité des artères suite à une crise cardiaque. Comme artiste, Léonard observa de près les effets de l'âge et de l'émotion humaine sur la physiologie, en étudiant en particulier les effets de la rage. Il a également dessiné de nombreux modèles, dont certains avec d'importantes déformations faciales, ou des signes visibles de maladie, 20, 63. Il a aussi étudié et dessiné l'anatomie de nombreux animaux. Il a disséqué des vaches, des oiseaux, des singes, des ours et des grenouilles, comparant la structure anatomique de ces animaux avec celle de l'homme. Il étudia également les chevaux. Ingénierie et invention modifiée. Combien de biographies n'a-t-on pas écrites, qui ne mentionnent cette activité scientifique ou technique, que pour montrer l'étendue d'un savoir qu'on veut universel? Tout ceci n'a pu se faire que péniblement, par une recherche constante de ce qu'avaient écrit les anciens ou les prédécesseurs immédiats, et faute de connaître tout ce passé qu'il avait fait. On a présenté Léonard comme un inventeur fécond. Les ingénieurs de la Renaissance. Bertrand Gilles. Léonard de Vinci s'inscrit dans le courant technicien de la Renaissance et, comme tel, il eut des prédécesseurs immédiats, ou plus lointains parmi lesquels on peut citer Conrad Chiesé, Tacola, Roberto Velturio, Filippo Brunelleschi, Giacomo Fontana ou encore Léon Battista Alberti à qui il doit sans doute beaucoup. 15. Certains furent des personnalités plus puissantes, des esprits plus complets, des curiosités plus larges encore. C'est le cas de Francesco di Giorgio Martini, qui fut son supérieur lors de la construction du dôme de Milan, et à qui il emprunta certainement beaucoup. 15. Étant sans doute moins occupé par ses réalisations que ce dernier du fait d'un carnet de commandes moins rempli, Léonard de Vinci sera à la fois plus prolixe, mais surtout capable d'un changement de méthode. Léonard est considéré comme le précurseur de nombre de machines modernes et, au-delà de l'étonnement éprouvé face à l'imagination prospective de l'auteur, on peut vite constater que le fonctionnement réel de la machine n'a pas dû être son souci premier. Comme le moine Elmé de Malmesbury au XIe siècle, qui avait oublié la queue dans ses machines volantes, les inventions de Léonard butent sur de nombreuses difficultés, l'hélicoptère s'envolerait comme une toupie, le scaphandrier s'asphyxierait, le bateau à aubes n'avancerait pas. De plus, dans ses épures, Léonard ne pose jamais le problème de la force motrice. 68. Dans une lettre adressée à Ludovic Sforza, il prétend être capable de construire toutes sortes de machines à la fois pour la protection de la ville et pour le siège. Quand il a fui à Venise en 1499, il a trouvé un emploi d'ingénieur, et a développé un système de barrières mobiles pour protéger la ville contre les attaques terrestres. Il a également eu pour projet de détourner la circulation de l'Arno, afin d'irriguer les champs toscans, de faciliter le transport et même de gêner l'approvisionnement maritime de Pise, la rivale de Florence. 30. Ces carnets présentent un grand nombre d'inventions, à la fois pratiques et réalistes, notamment des pompes hydrauliques, des mécanismes à manivelle, comme la machine à tailler les vis de bois, des ailettes pour les obus de mortier, un canon à vapeur. 16, 20, le sous-marin, la bicyclette. 6. Plusieurs automates, le char de combat, l'automobile, des flotteurs pour marcher sur l'eau, la concentration d'énergie solaire, la calculatrice, le scaphandre autonome, la double coque ou encore le roulement à billes. Un examen attentif de ces épures indique cependant que nombre de ces techniques furent, soit empruntées à quelques prédécesseurs immédiats, la turbine hydraulique à Francesco di Giorgio Martini, la chaîne articulée pour la transmission des mouvements à Tacola, soit l'héritage d'une tradition encore plus ancienne, le martinet hydraulique est connu au XIIIe siècle, les siphons et aqueducs sont visibles chez Frontin, les automates de divertissement décrits par les mécaniciens grecs. 15. Pourtant Léonard fut aussi novateur, il est sans doute l'un des premiers dans le cercle des ingénieurs de l'époque à s'intéresser au travail mécanique du métal et en particulier de l'or, plus malléable. Avec la machine volante, les quelques machines textiles, pour lesquelles la régularité des mouvements mis en œuvre, lui permettent d'appliquer son sens de l'observation, signe son originalité. Le métier mécanique, la machine à carder et celle à tondre les draps font sans doute de Léonard, le premier qui chercha à mécaniser, R une fabrication industrielle. La machine à polir les miroirs, qui supposait la solution d'un certain nombre de problèmes pour obtenir des surfaces régulières, planes ou concaves, a été imaginée pendant son séjour romain, alors qu'il étudiait la fabrication des images. Paradoxalement, Léonard de Vinci s'intéressa peu à des inventions que nous jugeons aujourd'hui très importantes telles que l'imprimerie, même s'il est un des premiers à nous donner une représentation d'une presse d'imprimerie. 15. Si la guerre peut répondre à une nécessité, elle est pasia bestialissima 26, une folie sauvage. Il étudie donc les armes tout en gardant du recul quant à leur utilisation. En 1502, Léonard a dessiné un pont de 240 mètres dans le cadre d'un projet de génie civil pour le sultan ottoman Beyazid II d'Istanbul. Le pont était destiné à franchir l'embouchure du Bosphore connu sous le nom de la Corne d'Or. Beyazid ne poursuit pas le projet, car il estime que cette construction serait impossible. La vision de Léonard a été ressuscitée en 2001, quand un petit pont basé sur sa conception a été construit en Norvège. Le 17 mai 2006, le gouvernement turc a décidé de construire le pont de Léonard pour la Corne d'Or. 69. Pendant la majeure partie de sa vie, Léonard a été, comme Icare, fasciné par le vol. Il a produit de nombreuses études sur ce phénomène en s'inspirant des oiseaux, et des plans de vol de plusieurs appareils, dont les prémices d'hélicoptères nommés la vis aérienne, le parachute et un deltaplane, 20 en bambou. Sur ce nombre, la plupart étaient irréalisables, mais le deltaplane a été construit, et, avec l'ajout d'un empennage pour la stabilité, a volé avec succès. Néanmoins, il semble probable qu'il estimait que les systèmes proches des chauves-souris avaient le plus gros potentiel. 26. Il inventa également la soufflerie aérodynamique pour ses travaux. Le musée du Clos Lucé à Amboise, le musée Il Castello situé au château de Comte Guidi de Vinci, et le musée des sciences et des techniques Léonard de Vinci de Milan contiennent de nombreuses maquettes, des objets grandeur nature basés sur l'étude de ses carnets, et des explications sur son travail. De Vinci a également étudié l'architecture. Il est influencé par les travaux de Filippo Brunelleschi, et a projeté de surélever le baptistère Saint-Jean de Florence, 25 ou de créer une tour lanterne pour la cathédrale de Milan, 26. Il utilise souvent la forme octogonale pour les bâtiments religieux, et le cercle pour les militaires, 30. Suite à la peste qui frappe Milan vers 1484 et 1485, il conçoit une ville parfaite théorique avec des axes de circulation optimaux, et des conditions de vie de qualité. Sa vision n'est pas marquée par des distinctions sociales mais fonctionnelles, telles des organes dans un corps humain, 26. Il travaille également sur les jardins, 34. Néanmoins, beaucoup de ses travaux sur l'architecture seront perdus. La pensée de Léonard de Vinci modifiée. La méthode de Léonard de Vinci modifiée. On doit reconnaître à Léonard de Vinci un besoin de rationaliser inconnu jusqu'alors chez les techniciens. Avec lui la technique n'a plus affaire d'artisans, de personnes ignorantes et de traditions plus ou moins valables, et plus ou moins comprises par ceux qui étaient chargés de l'appliquer. C'est d'abord par les échecs, par les erreurs, par les catastrophes qu'il essaie de définir la vérité. Les lézardes des murs, les affouillements destructeurs des berges, les mauvais mélanges de métal sont autant d'occasions de connaître les bonnes pratiques. Progressivement, il élabore une sorte de doctrine technique, née d'observations, bientôt suivie d'expériences, qui furent parfois conduites sur de petits modèles. Harald Lofding présente sa pensée, comme un mélange d'empirisme et de naturalisme, 70. En effet si pour Léonard de Vinci, la sagesse est la fille de l'expérience 71, elle permet de vérifier constamment ses intuitions et théories, car l'expérience ne se trompe jamais, ce sont vos jugements qui se trompent en se promettant des effets, qui ne sont pas causés par vos expérimentations, 71. La méthode de Léonard de Vinci a certainement consisté dans la recherche de données chiffrées, et son intérêt pour les instruments de mesure en témoigne. Ces données étaient relativement faciles à obtenir dans le cas des poutres en flexion par exemple, beaucoup plus compliquées dans le domaine des arcs ou de la maçonnerie. La formulation des résultats ne pouvait être que simple, c'est-à-dire exprimée le plus souvent par des rapports. Cette recherche effrénée de l'exactitude est devenue la devise de Léonard de Vinci, Ostinato rigor, obstiné rigor 72. C'est néanmoins la première fois qu'on voit appliquer de telles méthodes dans les métiers où on dut longtemps se contenter de moyens irraisonnés d'appréciation. Ce faisant, Léonard en est arrivé à pouvoir poser des problèmes en termes généraux. Ce qu'il cherche avant tout ce sont des connaissances générales, applicables dans tous les cas, et qui sont autant de moyens d'action sur le monde matériel. Pour autant sa science technique reste fragmentaire. Elle s'attache à un certain nombre de problèmes particuliers, traités très étroitement, mais il y manque encore la cohérence d'ensemble, qu'on trouvera bientôt chez ses successeurs, 15. Pour lui, cette recherche dans tous les domaines de la science est de l'arrêt normal car tout est lié. Sa curiosité et son activité perpétuelle, sont un moyen de garder un esprit vivace car le fer se rouille, faute de s'en servir, l'eau stagnant perd de sa pureté et se glace par le froid. De même, l'inaction sape la vigueur de l'esprit, 71. Léonard de Vinci considère la peinture par exemple, comme l'expression visuelle d'un tout, l'art, la philosophie et la science, sont selon lui indissociables, pouvant expliquer en partie son approche de polymathe, et qui blâme la peinture même, ni la philosophie ni la nature, 71. En proposant une synthèse par la beauté, Léonard de Vinci illustre à lui seul, ce que fut le grand courant d'innovation de la Renaissance, 73. Morale et éthique modifiée. Léonard de Vinci pense que l'homme doit s'engager activement à combattre le mal et faire le bien car celui qui néglige de punir le mal aide à sa réalisation 71. Il indique également qu'il ne se fait aucune illusion sur la nature de l'homme et de la façon dont il pourrait utiliser ses inventions, comme il le fait en préambule à une présentation du sous-marin. Je ne décris pas ma méthode pour rester sous l'eau, ni combien de temps je peux y rester sans manger. Et je ne les publie et ne les divulgue pas, en raison de la nature maléfique des hommes, qui les utiliseraient pour l'assassinat au fond de la mer en détruisant les navires en les coulant, eux et les hommes qu'ils transportent, 74. Léonard de Vinci place également la récompense morale bien au-dessus des récompenses matérielles. Ce ne sont pas les richesses, qui peuvent être perdues. La vertu est notre vrai bien, et la vraie récompense de son possesseur. Elle ne peut être perdue, elle ne peut nous abandonner, sauf quand la vie s'enfuit, 71. Postérité de Léonard de Vinci modifiée. Léonard de Vinci incarne parfaitement l'esprit de la Renaissance, époque des grandes découvertes. Génie universel, curieux de tout, parfois vu comme un personnage entre Faust et Platon, 34, il a consacré sa vie à la recherche de la connaissance. Il imagine de multiples appareils et machines, dont la première machine volante, qui resteront au stade de dessin. Plus qu'en tant que scientifique proprement dit, Léonard de Vinci a impressionné ses contemporains et les générations suivantes par son approche méthodique du savoir apprendre, du savoir observer, du savoir analyser. la démarche qu'il déploie dans l'ensemble des activités qu'il aborde, aussi bien en art qu'en technique, les deux ne se distinguant d'ailleurs pas dans son esprit, notamment en horlogerie, procède d'une accumulation préalable d'observations détaillées, de savoirs disséminés ça et là, qui tend vers un surpassement de ce qui existe déjà, avec la perfection pour objectif. Bon nombre des croquis, notes et traités de Léonard de Vinci ne sont pas à proprement parler des trouvailles originales, mais sont le résultat de recherches effectuées dans un souci encyclopédique, avant l'heure. Léonard de Vinci se classe mal, et c'est en ce sens qu'il a paru exceptionnel. 15. De son vivant, Léonard a déjà une renommée, telle que le roi de France l'a ramené dans son pays comme un trophée, et a affirmé l'avoir accompagné dans sa vieillesse, et l'avoir tenu dans ses bras quand il est mort, affirmation qui semble néanmoins fausse quant à sa mort, malgré le tableau de Dominique Ingres sur ce thème. L'intérêt pour de Vinci n'a jamais diminué depuis cette période. Giorgio Vasari, dans le Vite, dans son édition de 1568-19 introduit son chapitre sur Léonard de Vinci avec les mots suivants. Dans le cours normal des événements, beaucoup d'hommes et de femmes sont nés avec des talents remarquables, mais, parfois, d'une manière qui transcende la nature, une seule personne est merveilleusement dotée par le paradis avec beauté, la grâce et le talent dans une telle abondance, qui laisse les autres hommes loin derrière. Tous ses actes semblent inspirés, de fait, tout ce qu'il fait vient clairement de Dieu, plutôt que de compétences humaines. Tout le monde reconnaît que c'était vrai pour Léonard de Vinci, un artiste d'une beauté physique étonnante, qui a affiché une grâce infinie dans tout ce qu'il a fait, et qui cultivait son génie si brillamment que tous les problèmes qu'il a étudiés, il les résolvait avec facilité. 19. L'admiration continue de Léonard contre les peintres, les critiques et les historiens, se reflète dans de nombreux autres hommages écrits. Baldassare Castiglione, auteur du livre du courtisan, écrit, en 1528, un autre des plus grands peintres de ce monde, qui regarde dans son art dans lequel il est sans égal 75, tandis que le biographe connu sous le nom d'Anonimo Gaddiano a écrit, vers 1540. Son génie est si rare et universel, que l'on peut dire que la nature a fait un miracle en son nom 76. Le 19e siècle a introduit une certaine admiration pour le génie Léonard, Johann Heinrich Füssli écrivant en 1801, ainsi fut l'aube de l'art moderne, lorsque Léonard de Vinci apparut avec une splendeur qui distançait l'excellence habituelle, composée de tous les éléments qui constituent l'essence même du génie 77. Ce qui est repris par Arlorio, qui écrit en 1861, il était au-dessus de tous les autres artistes grâce à la force et la noblesse de ses talents 78. La variété du champ d'application de Léonard, transmise par ses carnets est connue, ainsi que ses peintures. Hippolyte Taine écrit en 1866, il ne peut sans doute pas y avoir dans le monde, un exemple d'un génie si universel, si capable de s'épanouir, si empli de nostalgie envers l'infini, si naturellement raffiné, si autant en avance sur son propre siècle, et les siècles suivants 79. Le célèbre historien d'art Bernard Berançon écrit en 1896, Léonard est un artiste dont on peut dire avec une parfaite littéralité, rien de ce qu'il a touché ne s'est transformé en une chose d'une éternelle beauté. Qu'il s'agisse de la section transversale d'un crâne, la structure d'une mauvaise herbe ou une étude des muscles, il a, avec son sens de la ligne et de la lumière et de l'ombre, à jamais transformé en des valeurs qui communiquent la vie 80. Charles Baudelaire le cite même dans Les Fleurs du Mal, 1857-81. L'intérêt pour le génie Léonard s'est maintenu sans relâche, des experts étudient et traduisent ses écrits, analysent ses tableaux en utilisant des techniques scientifiques, argumentent sur les œuvres qu'on lui attribue et recherchent des œuvres qui ont été enregistrées mais jamais découvertes. 82. La critique d'Arliana Bortelon écrit dans son livre, The Life and Times of Leonardo, 1967, en raison de la multiplicité des intérêts, qui l'ont incité à poursuivre tous les domaines de connaissance, Léonard peut être considéré, à juste titre, d'avoir été le génie universel par excellence, et avec toutes les harmonies inhérentes à ce terme. L'homme est aussi mal à l'aise aujourd'hui, face à un génie qu'il a été au XVIe siècle. 5 siècles se sont écoulés, et nous voyons encore Léonard avec une grande frayeur 16. Les foules font toujours la queue pour voir ses plus célèbres œuvres d'art, par exemple, le musée du Louvre doit une grande part de sa notoriété à la Joconde. Avec le best-seller Da Vinci Code, roman mêlant fait historique et artifice scénaristique, Dan Brown a donné un nouvel élan à l'intérêt pour De Vinci en 2003. Le roman a également été adapté au cinéma par Ron Howard. D'après un article du Monde, 83, la boîte de vitesse de la Tata Nano, a été imaginée à partir d'un modèle Léonard de Vinci, il s'agit tout simplement d'une lanterne en forme de tronc de cône, qu'il était sans doute difficile à manœuvrer pour la laisser en contact avec la roue dentée sur laquelle elle s'engrenait. 15. Dernièrement, en 2007, un couple de chercheurs italiens, a émis une hypothèse sur la présence d'une partition cachée à l'intérieur de la scène. La disposition des mains des personnages et des pains sur la table donnerait une petite mélodie. 84. Œuvre notable modifiée. Ce classement en fait selon les tendances générales des experts. La difficulté étant que les travaux d'atelier ne sont signés que par le propriétaire de l'atelier, et qu'ils n'ont d'œuvre de référence pour Vinci, notamment dans la sculpture. signé par Léonard de Vinci, ou attribué à lui modifié. La scène, entre 1495 et 1498, fresque, Santa Maria del Grazi, Milan. La Gioconda ou Mona Lisa, entre 1503 et 1504 puis entre 1510 et 1515, portée à l'huile sur bois, musée du Louvre, Paris. L'Adoration des Mages, 1481, huile sur bois inachevée, galerie des Offices, Florence. La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, 1502, 1513, huile sur bois, musée du Louvre, Paris. La Vierge au Rocher, entre 1483 et 1484, première version, huile sur bois, musée du Louvre, Paris. La Vierge, l'Enfant Jésus avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste, entre 1495 et 1499 puis entre 1506 et 1508, un carton supposé d'un autre œuvre, National Gallery, Londres. Saint Jérôme, vers 1480, inachevé, Pinacothèque du Vatican, Rome. Paysage de Santa Maria della Neve, 1473, Galerie des Offices, Florence. La bataille d'Anghiari, 1504-1506, peinture murale inachevée pour la salle du Grand Conseil du Palazzo Vecchio de Florence, détruite dès le XVIe siècle, notamment reprise par Pierre Paul Rubens. La Vierge au Rocher, entre 1505 et 1508 selon les estimations, seconde version au Léonard, ajoute les auréoles et le bâton à Jean-Baptiste, huile sur bois, National Gallery, Londres. L'Annonciation, entre 1472 et 1475, Galerie des Offices, Florence. Madonna Benoît, entre 1478 et 1482, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg. Saint Jean-Baptiste, entre 1513 et 1516, Musée du Louvre, Paris. Ginevra de Bancy, vers 1476, National Gallery of Art, Washington DC. La Dame à l'Hermine, vers 1485, Portrait de Cecilia Galrani, maîtresse de Ludovic Sforza, Musée Czartoryski, Cracovie. La Belle Ferronnière, entre 1490 et 1496, Musée du Louvre, Paris. Le Musicien, 1490, portrait de Franchini Gaffurio, et seul portrait masculin fait par Léonard, Bibliothèque Ambrosienne, Milan. Bachu, 1510-1515, à l'origine huile sur bois, Musée du Louvre, Paris. La Madonna l'Œillet, entre 1478 et 1480, Alpinacote, Munich. L'Eda et le Cygne, vers 1508, plusieurs versions et originales perdues, une d'entre elles est notamment visible à la Galerie des Offices, Florence. La Madone au Fuseau, vers 1501, existant trois versions de semblent-ils différentes mains, mais pourraient être des copies d'un travail perdu de Léonard, une des versions est dans une collection privée à New York. La Dame au Balcon, vers 1506. Nom signé par Vinci mais avec sa participation modifiée. Le baptême du Christ d'Andrea del Verrocchio, entre 1472 et 1475, huile sur bois, Galerie des Offices, Florence. L'Enfant au Dauphin d'Andrea del Verrocchio, vers 1475 et 1481, Palazzo Vecchio, Florence. Christ enfant d'Andrea del Verrocchio, vers 1477. Cheval de Léonard, sculpture inachevée. Paternité plus discutée modifiée. Madonna Lita, vers 1490 ou 1491, pourrait être de Marco d'Obgeno, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg. La Madone Dreyfus, auparavant attribuée à Andrea del Verrocchio ou Lorenzo di Credi. Dolienfant Embrassing, entre 1486 et 1490, plusieurs versions existent, collection privée. Madone avec l'enfant et Saint-Joseph-Joseph, anciennement attribué à Fra Bartolomeo, Galerie Borghese, Rome. Marie-Madeleine, généralement attribuée à Gian Pietrino. Christ portant la croix, collection privée. Musée modifié. Clovis et Amboise en Indre-et-Loire, France. Musée des sciences et des techniques Léonard de Vinci de Milan, Italie.